République face à l'immigration avec Pierre Brochand et Didier Lesky. Dans un article lumineux, Vérité et politique, Hannah Arendt écrivait « La liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. » C'est avec cet avertissement en tête que j'ai invité aujourd'hui à débattre de l'immigration, sujet inflammable s'il en est, Pierre Brochand, ambassadeur de France, ancien directeur général de la DGSE, Direction Générale de la Sûreté Extérieure, et Didier Lesky, qui est aujourd'hui directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Commençons donc par les faits, et en l'occurrence par les chiffres. Combien d'étrangers sont entrés en France l'année dernière et comment se répartissent-ils, Didier Lesky?
L'année dernière, la France a délivré 320 000 nouveaux titres de séjour. C'était en 2021 273 000, on voit la progression, mais dans ces 320 000, il y a une forte proportion d'étudiants, 108 000. C'est un fait notable. Aujourd'hui, il y a plus d'étudiants qui se voient délivrer un titre de séjour que l'immigration familiale. En rappelant que dans l'immigration, ce qu'on appelle l'immigration familiale, il y a deux choses. Il y a le rapprochement des conjoints de Français, les proches de Français, et puis il y a le rapprochement des conjoints ou des proches de résidents. Et dans cette catégorie, c'était 90 000 titres de séjour l'année dernière. On est dans quelque chose d'assez stable au fil des années, aux alentours de 90 000, disons ces 5 dernières années, hors un peu la période Covid. Et puis, on a eu une forte augmentation de l'immigration économique, 52 000 titres de séjour pour des raisons économiques, avec en particulier l'arrivée de techniciens sur ce qu'on peut appeler des métiers en tension. Et il faut ajouter à ces chiffres 156 000 demandes d'asile, hein, 137 000 en première intention, et puis ce qu'on appelle les Dublins, c'est-à-dire à peu près 30 000 personnes, 25 000 disons, qui sont venues après avoir été déboutées dans un autre pays d'Europe. La France est un des pays de rebond, comme on dit, de ceux qui, dans un autre pays d'Europe, se sont vus refuser l'asile. Voilà, ça c'est à peu près les chiffres.
Est-ce qu'on a une idée de l'immigration clandestine?
Il y a, je dirais, un élément de calcul assez objectivé qui est l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la prise en charge médicale pour ceux qui n'ont pas de titre de séjour. On est aux alentours de 400 000 personnes. C'est une augmentation assez forte ces dernières années.
400 000 par an ?
Non, c'est un stock.
Ah d'accord.
Voilà, si le mot est approprié pour des personnes, si vous voulez. Mais il faut rajouter, disons, une proportion de personnes qui n'ont pas encore demandé l'aide médicale d'État. C'est très difficile de comptabiliser le nombre de personnes sans titre de séjour. C'est une remarque importante parce que on peut penser, le ministre de l'Intérieur parle de 600 ou 700 000, en fonction des chiffres, même des chercheurs arrivent même à augmenter ce nombre. Je crois que on a du mal à voir, mais disons que on peut dire que aux alentours de 10% de ceux qui sont immigrés doivent s'ajouter à ceux qui sont déjà connus.
Un commentaire, Pierre Brochand?
Aucun commentaire sur ce que vient de dire Didier Lesky, puisqu'il ne fait que citer des chiffres, et en plus des chiffres officiels parfaitement objectifs, donc c'est une base solide sur laquelle nous pouvons discuter. Mais si vous me permettez, d'abord je vous souhaiterais vous remercier de m'avoir invité, et puis peut-être je voudrais donner quelques explications à vos auditeurs qui pourraient s'étonner de me trouver en pareille compagnie, puisque au départ, c'est vrai, je ne suis pas du tout un expert de l'immigration, je suis pas un démographe, un géographe, un historien, un sociologue, un islamologue, ni même un juriste. Mais en revanche, si je n'ai pas une véritable expertise, je pense posséder une expérience. Et cette expérience, je l'ai acquise, je l'ai accumulée tout au long d'un parcours professionnelle entièrement consacrée à l'extérieur, d'abord au Quai d'Orsay, puis à la DGSE. À vrai dire donc, à partir de cette expérience que j'ai emmagasinée à travers ces deux institutions, je me suis aperçu au fil du temps, non sans une certaine surprise, que les leçons que j'avais tirées de mon parcours devenaient de plus en plus pertinentes pour l'intérieur des frontières, puisque tout simplement par le biais de l'immigration, notre dehors était devenu notre dedans. J'ajoute aussi que cette carrière m'a valu de côtoyer, de fréquenter infiniment plus d'étrangers que de Français. Si vous me laissez encore 30 secondes, je voudrais donner, en complément de ce que vient de dire M. Lesky, une présentation peut-être plus globale et peut-être plus qualitative, mais en une dizaine d'adjectifs.
Allez-y.
Qui est pour moi une forme de diagnostic de l'immigration telle que nous la subissons depuis 50 ans. Donc pour moi, elle est sans précédent historique, elle est massive, elle est croissante, elle est hautement concentrée en Isola, elle est cumulative en boule de neige, elle n'est pilotée ni par le politique ni l'économique, mais par les juges, elle est très éloignée culturellement puisqu'elle provient quasi exclusivement de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, elle est potentiellement conflictuelle, donc revendicative, avec des tendances à la divergence au fil des générations. Elle est économiquement dysfonctionnelle, budgétairement coûteuse, impopulaire selon les sondages et très largement irréversible.
Bien, bah écoutez, voilà un diagnostic clair. Alors, Didier Lesky, partagez-vous ce diagnostic. Dites-vous également que l'immigration actuelle est sans précédent historique, alors même que la France est devenue un pays d'immigration à partir du deuxième tiers du 19e siècle. Didier Lesky.
Ce qui est exact, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'immigrés en France au sens de l'INSEE, c'est-à-dire des personnes nées étrangères à l'étranger, dont certaines ont acquis la nationalité française. Ça fait à peu près 7 millions de personnes, dont 2,5 millions qui ont la nationalité française. Et c'est vrai que depuis les années 2000, on a une progression extrêmement importante de plus de 50% de l'augmentation de l'immigration dans la part de la population. Dans les années 50, on était à 5% en 1950, donc on a doublé depuis les années 50. Mais l'autre élément qui est à prendre en compte, c'est le changement des origines de ces immigrés. C'est-à-dire que pendant très longtemps, et vous parlez de la deuxième moitié du 19e siècle, l'immigration est un phénomène de proximité, c'est-à-dire des pays d'Europe où plus loin, disons, c'est un phénomène de proximité et européen. On peut penser du reste aux juifs qui viennent des pays de l'Est. Et après la guerre, on a une corrélation qui est très forte entre immigration et développement économique. Le basculement, il se fait dans les années 80 avec une immigration qui devient de plus en plus une immigration du sud du monde, avec une proportion de maghrébins de plus en plus importante, même si les Algériens, ça commence dans les années 20. Hein. Mais et puis, surtout, ces dernières années, les subsahariens qui, en 1980, par exemple, les immigrés arrivant du sud du Sahara, c'est 4%. En 1975, les deux tiers des immigrés sont européens. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un tiers. Voilà. C'est ça le grand basculement. Avec la conjonction de phénomènes qui posent des problèmes après d'intégration, c'est-à-dire que c'est au moment où on connaît une désindustrialisation de plus en plus forte que l'immigration arrive de plus en plus, et c'est pour ça qu'on a eu une immigration familiale qui a supplanté l'immigration de travail. Et tout ça finit par poser des problèmes. Aujourd'hui, les problèmes, ils sont de deux ordres. Une concentration, effectivement, très grande. On peut penser, par exemple, à l'Île-de-France, c'est ce que disait Pierre Brochand. C'est-à-dire qu'on a une non-répartition de la charge de l'accueil. Et ce qui se passe à petite échelle en France, on le voit au niveau de l'Union européenne, si vous voulez. Ce sont quelques pays qui concentrent l'immigration du Sud, et encore, il faudrait avoir des nuances parce que nous concentrons plus d'immigration du Sud, par exemple, que l'Allemagne, dans le nombre total des étrangers, avec en particularité cette focalisation sur l'Île-de-France, où cette focalisation Par exemple, dans le logement social, plus de 30% des ménages immigrés vivent dans le logement social, hein, alors que ce n'est que 13% pour les non-immigrés. Et pour certaines nationalités, c'est encore plus fort, puisque, par exemple, un ménage algérien sur deux vit dans le logement social pour des raisons liées aussi historiques. Et donc, c'est ça qui fait la difficulté. C'est vraiment cette conjonction entre des personnes qui sont, pour beaucoup d'entre elles, moins bien formées, hein, parce qu'elles viennent de pays, par exemple, où il n'y a pas d'école, et cette disparition d'emplois industriels qui était un facteur d'intégration. Donc la question sociale, à mon sens, est supérieure à la question du nombre, d'une certaine manière.
Vous disiez, Pierre Brochand, que cette immigration est économiquement dysfonctionnelle. Or, certains font valoir que le vieillissement des populations européennes ne pourrait être compensé en vue de maintenir le niveau de vie actuel que grâce à des bras et des cerveaux venus d'ailleurs. Donc ils considèrent au contraire que ça tombe très bien et que de ce point de vue-là, on peut être heureux qu'il y ait des immigrés en France, ne fût-ce que pour payer nos retraites. Que répondez-vous à cet argument, Pierre Brochand puis Didier Lesky?
C'est beaucoup plus vaste qu'ils vont payer nos retraites ou occuper les emplois que les Français, dont les Français ne veulent pas. C'est les arguments habituels que l'on nous sert. À vrai dire, si on se place du point de vue macroéconomique, il y a une loi sur laquelle tous les experts, tous les économistes sont d'accord, c'est qu'une immigration n'est profitable que si son niveau moyen de qualification et de compétence est supérieur à ceux du pays d'accueil. Or, de toute évidence, je pense que nous serons aisément d'accord là-dessus, ça n'est pas du tout le cas, car la plupart viennent de pays du tiers-monde, qui sont des sociétés défaillantes de tous les points de vue, et où les qualifications de main-d'œuvre sont en général très basses. Donc, dans ces conditions, si ces immigrés sont moins qualifiés, qu'est-ce qui se passe? L'immigration ne profite pas à l'ensemble du pays, mais profite à quelques catégories bien précises, qui sont d'une part les immigrés eux-mêmes, dont le revenu en franchissant la frontière est multiplié par 20, 30 ou 40 par rapport à leur pays d'origine, ceux qui les emploient, qui ont sous la main une main-d'œuvre taillable et corvéable à merci, et aussi les pays de départ qui reçoivent des transferts financiers de la part des immigrés qui sont considérables et dont on ne parle jamais. Donc, tous les autres, à commencer par le budget de l'État, y perdent. Si vous voulez, pour l'économie en général, l'immigration exerce une pression à la baisse sur les salaires des métiers peu qualifiés, sur la productivité par tête, et donc sur le PIB par tête, sur l'investissement en capital, parce que ça retarde, ça freine l'automation. Et aussi, et là c'est un point très important, sur le taux d'activité et le taux d'emploi, qui sont très inférieurs à ceux de la population qu'on pourrait qualifier d'autochtone. Et en revanche, ils exercent une pression à la hausse sur le chômage, qui est le plus souvent 2 à 3 fois supérieur à celui des natifs, disons, sur la fraude sociale, qui est due en partie quand même au travail non déclaré. Et ensuite, alors au-delà de cet impact macro, il y a l'impact sur le budget. Et quoi qu'on dise, quoi que disent même certaines personnalités éminentes, l'immigration est très coûteuse pour le budget de l'État. Alors, je dois dire d'ailleurs, si je peux ouvrir une parenthèse, que je trouve qu'il est scandaleux que dans un pays du niveau de développement de la France, il n'y ait pas une commission d'experts autonomes qui ne s'est pas livrée à ce travail d'évaluer le coût de l'immigration, ou les bénéfices éventuels d'ailleurs, pour l'économie en général, pour l'État et les collectivités locales en particulier. Vous avez par exemple une étude de l'OCDE récente. L'OCDE qui est un organisme très favorable à l'immigration en général, qui conclut que sur 2 générations, la différence entre les cotisations et impôts versés et les prestations reçues par les immigrants est de 33 milliards d'euros. Donc, à mon avis, c'est une évaluation très minimale. À quoi s'ajoute pour le budget de l'État 7 milliards de coûts institutionnels par l'immigration directement et 7 milliards pour la politique de la ville, ce qui nous amène déjà à 47 milliards, ce qui n'inclut ni les irréguliers, ni les étudiants, ni les budgets des collectivités locales. Or, il ne faut pas oublier, par exemple, que les départements prennent en charge les mineurs non accompagnés au tarif de 2 milliards par an. Ce à quoi j'en disais un mot à l'instant, il faut ajouter les transferts vers les pays d'origine, 14 milliards officiellement, c'est-à-dire par transfert bancaire, mais en fait, comme ces transferts se font le plus souvent de manière informelle, en fait, beaucoup plus. Et on peut dire sans grand risque de se tromper que depuis les années 70, ces transferts s'élèvent à peu près à 1 000 milliards en dollars constants. Au final, il reste peut-être deux problèmes majeurs qui sont les plus importants. La survie de l'État-providence, qui est d'ailleurs ce qui a réveillé les sociaux-démocrates danois.
Danois, notamment, oui.
Il n'est pas possible... Milton Friedman, l'économiste bien connu, l'avait dit aussi clairement. Il n'est, d'une part, la libre circulation des individus et un État-providence ne sont pas compatibles. Pour des raisons à la fois économiques et politiques. Économiques parce que la France est une économie limitée et elle ne peut pas satisfaire des besoins illimités. Politiquement, parce qu'il doit y avoir quand même entre les contributeurs et les receveurs, une certaine empathie, une certaine confiance sociale que seule l'appartenance commune à une nation peut justifier. Je suis un peu long, je le regrette. Vous me permettez une dernière...
Allez-y, Pierre Brochand.
Je suis désolé.
Non, c'est pas grave. Didier Lesky aura la parole.
Oui, abondamment, j'espère. En fait, peut-être un problème... Au fond, je suis le seul à soulever ce qui me surprend, y compris chez les gens qui critiquent l'immigration, c'est qu'on ne fasse aucun lien entre l'immigration et la saturation des services publics. Il y a 50 ans, nous avions les meilleurs services publics du monde, nous étions fiers, le monde entier nous les enviait, etc. Aujourd'hui, ils sont vilipendés par tout le monde, on s'en plaint. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? On ne peut pas faire l'économie des 35 heures, c'est vrai, qui a joué son rôle. Mais chaque année, quand même, nous admettons 450 000 personnes qui n'ont pas contribué un centime aux infrastructures qu'ils vont utiliser dès le premier jour. Ça fait 2 600 000 personnes depuis 5 ans. Comment voulez-vous que ces gens qui ensuite vont devenir surconsommateurs et sous-contributeurs ne puisse pas faire peser sur les services publics une pression insupportable, dans laquelle, moi, je vois une des causes fondamentales de ce délabrement, en raison de cette course insensée, puisque l'année suivante, 500 000 supplémentaires vont arriver, une course insensée qui est ingagnable par le budget public.
Très bien. Alors, est-ce que sur ces faits-là, on continue à s'accorder ? Didier Lesky.
Écoutez, les calculs économiques sont toujours un peu complexes, mais il est indéniable qu'il y a des chiffres différents en fonction de ce qu'on fait rentrer dans la charge ou dans les avantages en termes de production de valeur, si vous voulez. Mais la question, il y a différentes questions. D'abord, sur le niveau de diplôme, notre problème, c'est la prise en charge d'une fraction de l'immigration qui est peu ou pas diplômée. L'étude de l'INSEE qui vient de sortir ce dernier jour le montre encore. C'est-à-dire on a une grande proportion, en gros un tiers d'hommes ou de femmes qui sont peu diplômés. Et c'est une des caractéristiques de notre immigration par rapport à d'autres pays de l'OCDE, puisque l'OCDE a été signalé qu'avait déjà... pointer le Conseil d'analyse économique, c'est-à-dire le fait que nous sommes un des pays de l'OCDE avec une immigration qui est en moyenne et peu diplômée par rapport aux autres pays, et en plus avec les arrivées de personnes venant de pays déstructurés, puisque nous sommes héritiers de notre histoire où les personnes n'ont pas eu accès un système de formation performant. C'est par exemple une différence entre la France et l'Angleterre. Je veux dire, l'Inde a un système scolaire qui est beaucoup plus développé que des pays subsahariens qui sont pour nous pourvoyeurs d'immigration. Sur la question des salaires, la pression sur les salaires, c'est un sujet ancien et qui se posait déjà, je dirais, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Gérard Rounariel l'a beaucoup l'a montré, c'est vous dire les libéraux ont utilisé de la main-d'œuvre immigrée qui était européenne pour faire pression sur les salaires ou pour pourvoir des emplois que la résistance populaire refusait de prendre parce que c'était des conditions de vie qui n'étaient pas correctes, en particulier dans l'agriculture, par exemple. Donc tout ça, ça fait partie du sujet, bien sûr, qui est à prendre en compte. Et la difficulté que nous avons, nous, spécifiquement, par rapport à, je dirais, à une partie de nos voisins, c'est cette évolution du profil avec cette arrivée de personnes qui viennent de pays qui se sont, en plus, effectivement, culturellement éloignés de nous. Hein. Si on prend l'ensemble des étrangers qui sont en Allemagne, des immigrés qui sont en Allemagne, bien évidemment, il y a les Turcs, mais il y a surtout aussi des personnes qui viennent de l'ancienne Fédération de Russie ou des pays de l'Est. Et quand l'Allemagne, par exemple, dit « je veux faire venir des étrangers » pour remplir mes besoins économiques, et sans parler de la question des retraites, qui est une vision un peu utilitaire et qu'on peut discuter, eh bien, il dit « je veux des personnes qui sont déjà formées ». Et du reste, ils ont une politique qui est même très proactive, puisque, par exemple, vous avez des pays, je pense à l'Égypte, par exemple, où une entreprise comme Siemens, eh bien, a monté une université où les cours sont donnés en allemand et où on prend des personnes qualifiées pour les faire venir et où on a une grande attention, par exemple, sur la question de la langue.
La qualification. Vous avez dit tout à l'heure, Didier Lesky, que parmi les nouveaux arrivants, il y avait une proportion grandissante d'étudiants. Mais la question que je vous pose, c'est que font ces étudiants une fois qu'ils ont terminé leurs études? Retournent-ils dans leur pays d'origine? Restent-ils en France? Est-il possible pour eux, après, justement, des études en France, d'obtenir un travail en France? Toutes ces questions se posent parce que il serait dommage que les personnalités les plus performantes d'Afrique, par exemple, ne puissent pas retourner chez eux, médecins ou autres, et restent en France pour combler nos besoins. Ce serait une manière d'aggraver le fossé entre les deux mondes. Didier Lesky.
C'est un peu ce qui se passe pour certaines nationalités. Si vous voulez, on a à peu près 400 000 étudiants étrangers en France, 40 000 Marocains. Est-ce qu'ils retournent tous? En réalité, ça dépend de l'appréciation qu'ils ont de leur pays de départ et de la vie bonne qu'ils peuvent après espérer y trouver ou les bons salaires. Et il est indéniable que, par exemple, pour les médecins, eh bien, ceux qui se forment ici restent ici ou vont dans d'autres pays. On peut penser à d'autres pays francophones, le Québec, etc. Mais c'est un des problèmes hein, de cela. C'est pas vrai, par exemple, pour d'autres nationalités. Je pense aux étudiants chinois qui ont plus une proportion à retourner dans leur pays parce que il y a une économie qui peut les absorber et qui peut leur offrir des conditions qu'ils estiment meilleures. Mais c'est un problème majeur que vous soulevez. Par exemple, dans le projet de loi, il y a une mesure qui a été beaucoup discutée dans les pays de départ, en Afrique ou dans le Maghreb. C'est l'appel explicite aux médecins à venir en France. On sait qu'il y a dans les hôpitaux beaucoup de médecins étrangers qui permettent de combler cette politique un peu absurde qui a été mise en place au début des années 70, qui s'appelle le numerus clausus. Mais une chose est d'employer ces médecins, une autre chose est d'apparaître comme voulant absolument absorber des compétences, parce que après, une fois qu'on absorbe les médecins, il est normal d'une certaine manière que les malades suivent. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement réfléchi, et on peut penser à d'autres compétences. L'OFI est présent dans un certain nombre de pays du Maghreb, et où on fait venir tous les ans, l'année dernière par exemple, 1 000 000 d'informaticiens. Vous trouvez des personnes du Maroc, vous trouvez des personnes au Maroc qui vous disent, mais vous nous appauvrissez. Et c'est une discussion qui n'est pas négligeable parce qu'elle est instrumentalisée. Vous avez des courants islamistes, par exemple, dans ces pays qui disent la France a une politique postcoloniale qui vise explicitement à continuer à nous affaiblir. Et on peut penser aussi que dans d'autres pays subsahariens, les critiques qu'on entend vis-à-vis de la France sont renforcés par cette idée que, ben voilà, ils vont nous prendre nos médecins alors que nous, nous n'en avons pas.
D'accord. Bon, alors, je crois que sur le bilan, beaucoup de choses ont été dites. Alors, maintenant, la question que je voudrais poser, c'est que faire ? Et j'ai sous les yeux le livre de François Héran, professeur au Collège de France, « Immigration, le grand déni ». Et il dit, lui, François Héran...
C'est curieux d'ailleurs cette expression, le grand
oui,
déni, parce qu'elle est réversible.
Absolument, oui. Oui, oui, absolument. Et simplement, il dit, ben, faire, c'est faire avec. C'est un phénomène, c'est un mouvement planétaire. Il faut faire avec, vivre avec l'immigration. Élise Vincent, journaliste au Monde, dans un livre intitulé « La vague, la France face à la crise migratoire », dit « Pour que les flux s'intègrent bien, il faut enfin apprendre à penser une société française multiculturelle sans réduire ses questions au débat sur la laïcité ou le communautarisme. » Voilà. Et pensez-vous que faire avec, ce soit témoigner d'une certaine lucidité ou est-ce manifester une forme de renoncement ?
On fait avec. On fait avec. Je pense que c'est une fausse question posée comme ça. D'abord, on fait avec au sens où, contrairement à ce qui est dit souvent, l'Europe n'est pas une forteresse. La particularité des pays d'Europe, c'est l'élargissement du spectre de leur diversité. La question est à mon sens, beaucoup plus une question, je dirais, globale et à la fois sociale et, bien sûr, un aspect culturel. Puisque on a une partie des immigrations. Et il faut toujours penser les immigrations au pluriel. On a une partie des immigrations qui sont la projection du chaos du monde. Et la question qui est posée, c'est effectivement, est-ce que l'Europe peut à chaque fois absorber le chaos du monde avec cette idée implicite, d'une certaine manière, que les choses ne vont jamais s'améliorer au sud du monde. Il y a un peu ça qui est derrière tout ça. Et ça, c'est une question qui est légitime. Hein. Et c'est ça qui est le moteur des inquiétudes. Et tout à l'heure, on parlait de la social-démocratie dans le pays danois, c'est-à-dire d'un pays qui a été un des vecteurs de l'État social, enfin, historiquement, dans les années 20, 30, et qui a mis en place quelque chose qui était une solidarité entre cotisants, avec cette idée que chacun devait cotiser en fonction de ses moyens, et qui dit, attention, je ne peux pas tout absorber. Alors, et ça renvoie aussi, en ce qui concerne plus spécifiquement la France, et c'est pour ça que la France est d'une situation un peu différente que celle de l'Allemagne, qui est liée à notre potentiel industriel, à l'industrialisation. Et c'est vrai qu'un pays qui a un développement industriel beaucoup plus important ou qui n'a pas perdu une partie de son industrie, eh bien, absorbe beaucoup plus. Après, est-ce qu'il y a... il peut y avoir un discours qui est de dire bah, est-ce que tous les perdants d'un système économique global qui est profondément inégalitaire, eh bien, peuvent se réfugier dans les pays d'Europe ? Il y a là quelque chose à réfléchir, et c'est ça que pose la social-démocratie dans ces pays. C'est comment on réfléchit cette question. Or, il y a une absence de critique globale, hein, je dirais même parfois une perte de ce que, dans mon jeune temps, on appelait l'internationalisme.
Alors, justement, vous diriez aussi que faire, ça doit être faire avec, Pierre Bonchamp ?
Écoutez, je considère que faire avec fait partie d'un discours officiel dominant, et qui est marqué, à mon sens, surtout par l'incohérence. Parce que faire avec, ça n'est qu'une facette de ce discours qui est celui de la fatalité. Mais en fait, quand on l'analyse un peu, on s'aperçoit aussi qu'il y a de l'occultation pure et simple, qu'il y a de la dénégation, qu'il y a du fait accompli. Ils sont déjà là, c'est plus la peine de se fatiguer. Il y a les engagements internationaux qu'il faut respecter. Il y a la banalisation, rien de nouveau sous le soleil, ça a toujours existé. Il y a l'innocuité, mais où est le problème ? Ce sont des êtres humains comme nous. Il y a la valorisation, ça c'est une chance pour la France. Il y a l'incantation, c'est-à-dire glorifier ce qui n'existe pas, le vivre ensemble. Il y a la générosité humanitaire. Il y a l'utilité, dont nous avons dit un mot à l'instant, payer les retraites, faire les métiers que les Français ne veulent pas faire. Mais le plus important dans ce discours qui est multifacette, mais qui est en fait un discours de l'impuissance et de la paralysie de l'État, je trouve que l'argument décisif, massu et le plus stupide. C'est-à-dire, attention, ne mettez pas de l'huile sur le feu. Le plus stupide, pourquoi ? Parce que c'est avouer qu'il y a un feu, mais qu'il ne faut pas s'en occuper, qu'il faut le laisser brûler. Donc moi, je n'admets absolument pas ce discours, d'autant que parfois il est plus subtil, c'est-à-dire que ce n'est pas « ne faisons rien », mais « faisons quelque chose ». Et c'est peut-être plus grave parce que ça donne l'impression, ça donne le sentiment à l'opinion que les pouvoirs publics agissent, mais qu'en fait, c'est de la diversion. Et je classerai dans cette catégorie le projet de loi avorté que le gouvernement...
Gérard Damanin et Olivier Dussopt devaient présenter au Sénat et à l'Assemblée nationale. Voilà. Et il est décalé pour cause de...
Oui, saucissonné et éventuellement passé à la trappe.
Du fait de la crise engendrée par la réforme de
ce qui est d'ailleurs curieux, c'est que chaque fois que le sujet de l'immigration revient à la surface, il y a une bonne raison de le faire passer à la trappe. Il y a eu le Covid, il y a eu l'invasion russe en Ukraine, etc. Dans la campagne électorale présidentielle, pratiquement, a complètement escamoté le sujet, alors qu'au départ, on aurait pu imaginer qu'il soit central.
Bien, alors justement, ce projet de loi qui va peut-être être saucissonné, quel est-il et vous satisfait-il, Didier Lesky ?
Écoutez, je ne peux pas dire qu'il ne peut pas me satisfaire. Puisque... je rappelle que je suis fonctionnaire. D'une certaine manière, je ne fais pas de politique.
Vous n'êtes pas de politique, mais peut-être êtes-vous été associé à sa préparation.
Oui, bien sûr, mais je pense qu'il avait et il a toujours
des vertus.
Des vertus. Et en particulier parce qu'il porte une attention au sujet de la langue, hein, qui n'est pas historiquement notre attention. D'abord parce qu'on n'est pas français, parce qu'on parle français, contrairement à, par exemple, à l'Allemagne, où on est allemand d'une certaine manière, parce qu'on parle allemand. Et donc, lier un titre pluriannuel de séjour à un niveau de langue me semble une bonne chose. Et je rappelle que ce qui est un des problèmes pour nous, c'est sans doute d'avoir sous-estimé le sujet de l'intégration, et en particulier parce que à travers la langue, c'est aussi une culture que l'on apprend. Et les Allemands, par exemple, qui ont une politique beaucoup plus exigeante, ou les Autrichiens, ou les Hollandais, ou les Italiens que nous, à partir de la langue. La deuxième chose qui me semblait une bonne idée, c'est de renouer avec le lien entre immigration et travail. On a indéniablement un problème dans certains secteurs de présence de travailleurs, et on ne peut pas simplement se satisfaire d'une nouvelle classe ancillaire qui pédale pour livrer des sushis à des personnes qui, par ailleurs, se prétendent accueillantes et qui se satisfont de ces formes d'esclavage moderne, en fait. Et donc, lier le travail et l'immigration, c'est redonner une vision et une utilité sociale de ce que sont les personnes quand elles participent de la production. Moi, je pense que le terme migrant est une faute, et qu'il faut, par ailleurs, parler de travailleurs immigrés ou de réfugiés. Enfin, il faut différencier les situations sociales. Je rajoute enfin qu'il y avait dans ce texte une augmentation des pénalités en ce qui concerne les marchands de sommeil. Or, c'est important parce que un des problèmes de l'intégration aujourd'hui, et même du pouvoir d'achat pour tout le monde, mais de l'intégration, c'est le logement. Il y a une concurrence très vive dans les couches populaires autour du logement. J'ai parlé tout à l'heure du logement social. Or, c'est un frein majeur à l'intégration que la difficulté d'accès au logement. Donc, je pense que, en ce sens, je pense que la France a besoin de rattraper la moyenne de ce qui se fait au niveau européen. Et on peut pas être dans une sorte de souveraineté, je dirais, humaniste, et aller avec chez nos partenaires en disant nous, on a toujours raison, alors que sur bien des domaines, ils font en réalité mieux que nous.
D'accord. Mais vous dites, on peut penser aussi que pour rendre possible l'intégration, il faut agir sur les flux et peut-être sur les stocks, c'est-à-dire comment l'intégration est-elle possible avec des arrivées aussi massives d'immigrants tous les ans. Et d'ailleurs, c'est un peu votre...
Oui, en ce sens-là, les Allemands ont eu une politique de lissage des flux. Par exemple, ils sont beaucoup plus exigeants en matière d'immigration familiale, justement avec cette idée d'étaler les flux. Et même si aujourd'hui, on voit en Allemagne des problèmes autour de la question de l'hébergement et du logement, ils étalent les flux et puis ils ont des mécanismes de répartition qui sont des mécanismes contraints que nous, on n'utilise que pour les demandeurs d'asile, mais qu'on n'utilise pas après. Et c'est sans doute quelque chose à réfléchir.
Alors, Pierre Brochand, vous dites « L'objectif n'est autre que de remonter dans l'habitacle et de reprendre le volant d'un camion d'où le chauffeur a sauté. » Voilà. Et vous donnez un certain nombre d'objectifs qui ne se retrouvent pas en effet dans le projet de loi sur l'immigration. Toute demande d'asile doit être présentée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire française dans le premier pays d'accueil. Vous dites aussi ne plus régulariser les illégaux à l'usure, ne plus récompenser l'illégalité par l'aide médicale d'État, sauf urgence bien sûr, mettre des conditions au regroupement familial, contingenter le nombre d'étudiants, ne plus autoriser le voile à l'université. Alors, ces mesures, pourquoi ces mesures vous paraissent-elles nécessaires? Et est-ce possible aujourd'hui d'agir comme vous le souhaitez, étant donné la part prise par les instances européennes dans toutes les décisions concernant l'immigration? La France, en matière d'immigration, autrement dit, est-elle encore un pays souverain? Pierre Brochand.
Alors, vous m'avez un peu coupé l'herbe sous les pieds, puisque vous avez cité la plupart des mesures...
Oui, mais vous pouvez les commenter maintenant.
Que je préconise. L'idée générale, c'est que, Monsieur Lesky en sera bien d'accord, dans toute immigration, il y a deux facteurs. Ce qu'en anglais, on appelle le facteur « push », c'est-à-dire ce qui vous amène à quitter le pays d'origine, et le facteur pull, c'est celui qui vous attire vers le pays de destination. Donc l'idée, c'est qu'on peut pas grand-chose, pratiquement rien, sur le facteur push, mais qu'en revanche, on peut faire énormément sur le facteur pull, c'est-à-dire décourager la venue dans notre pays. Alors, que faire? Il y a quatre hypothèses. Soit nous ne faisons absolument rien, c'est-à-dire nous adoptons le panglossisme comme doctrine et nous allons droit dans le mur, avec, à mon avis, de terribles déconvenues et de grandes infortunes. Soit nous continuons à faire semblant en votant tous les deux ou trois ans des lois comme celle qui est en préparation et qui, à mon avis, ne répondent pas du tout aux impératifs de la situation. Je suis un peu en désaccord avec M. Lesky sur ce point. Parce que ce sont toutes des lois... D'ailleurs, le fait qu'il y en ait une trentaine depuis 40 ans prouve bien leur inefficacité. Autrement, le problème aurait été réglé plus longtemps. C'est qu'elles, en fait, elles se situent à droit et jurisprudence constante, et que par conséquent, elle se borne à une gestion administrative et marginale des procédures. Alors, lorsque le gouvernement est de gauche, on assouplit les procédures. Lorsque le gouvernement est de droite, on les durcit. Lorsque le gouvernement est du centre, on assouplit et on durcit.
En même temps.
Voilà, exactement. Je ne vous le fais pas dire. Mais on se rend compte aussi à l'épreuve que tout ce qui est assoupli fonctionne, tandis que tout ce qui est durci, ça ne marche pas pour de très bonnes raisons. Et c'est pourquoi je pense que ces lois, en fait, sont très pernicieuses, elles sont cosmétiques, mais je l'ai dit à l'instant, elles donnent le sentiment à l'opinion, elles donnent le sentiment aux Français qu'on s'occupe sérieusement du problème alors qu'il n'en est rien. Une troisième possibilité qui est apparue récemment, C'est disons l'hypothèse danoise, pour laquelle je pense M. Lesky a une certaine sympathie, qui est plus ou moins adoptée aussi par un organisme au-dessus de tout soupçon, qui est la Fondapol, dirigée par M. Dominique Régnier, et qui consiste à, en fait, pour reprendre le terme, durcir fortement les conditions d'accès au territoire et à la nationalité. J'estime que c'est largement mieux que rien. Mais j'estime aussi que ça n'est pas suffisant au point où nous en sommes arrivés aujourd'hui, c'est-à-dire où 40% des enfants entre 0 et 4 ans ont un lien avec l'immigration. Donc j'estime qu'on arrive très près d'un point de bascule que je considère comme décisif. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il ne faut pas hésiter à prendre le taureau par les cornes et opérer un virage à 180 degrés, reprendre le volant du camion, comme vous avez dit. Mais ce qui les choses étant ce qu'elles sont aujourd'hui en France exige un formidable courage politique que je n'arrive pas à discerner à l'horizon. Mais je répète, nous en sommes arrivés à un tel point que la réaction, à mes yeux, ne peut être qu'extrême. Alors, comment faire ? Moi, je pense qu'il faut d'abord, parce que les immigrés sont des gens, contrairement à ce qu'on peut croire, extrêmement rationnels. Leur décision de partir et ensuite s'orienter vers le pays qu'ils considèrent présentant le plus d'opportunités, le plus généreux, voire le plus laxiste. Donc il faut envoyer un message. Monsieur Colomb parlait de benchmarking. Il faut envoyer au plus haut niveau de l'État un message clair d'un changement de cap à 180 degrés et que la France ne devra pas être considérée comme un pays d'accueil pour une durée indéterminée. Ensuite, soulever quelques préalables que je peux citer si vous le souhaitez.
Vous les citez et Didier Lesky vous répond tout de suite.
Ces préalables, le premier, c'est la transparence statistique. On ne peut pas faire l'économie de statistiques dites ethniques. Monsieur Régnier parle de statistiques complètes. C'est un gentil euphémisme. Mais si l'on veut traiter un problème dans toutes ses dimensions, il faut le connaître à fond. Et j'estime que le critère de la nationalité, dans le type d'immigration que nous recevons, n'est pas suffisant pour cette connaissance. Le deuxième verrou, tâche herculéenne, il faut ignorer le discours intimidant que l'on nous impose, et en particulier le chantage au racisme et au fascisme que je considère comme une pure escroquerie. Car ce discours n'est que le reflet d'une idéologie qui, à mes yeux, pas plus qu'une autre, n'a rien de sacré. Et le troisième verrou, c'est peut-être le plus important, reprendre le contrôle, la maîtrise des instruments juridiques qui sont indispensables à l'action, qui sont passés dans les mains des juges et qu'il faut restituer aux législateurs par diverses voies.
Alors, Didier Lesky, est-ce que, là encore, vous souscrivez à ce qui est dit ou pensez que Pierre Bonchon va beaucoup trop loin ?
Je souscris pas, mais on pourrait reprendre le détail. Par exemple, je pense que ne pas régulariser à l'usure serait une faute. C'est-à-dire, il faut mettre, à partir du moment où les personnes sont là, et on peut discuter de pourquoi elles sont là, peut-être que c'est une faiblesse générale, mais il faut les régulariser. C'est une règle qui avait été mise en place en 1997 par Jean-Pierre Chevènement. C'était la règle des 10 ans. Aujourd'hui, on est autour de 5 ans. Je pense qu'il faut continuer à le faire. Et du reste, c'est ce que nous faisons pour 30 à 40 000 personnes tous les ans. Il faut continuer à le faire, en particulier à partir du moment où des enfants sont nés ici. Et il ne faut pas, je crois, en cette matière... sur cette idée qu'on peut faire des choses qu'on ne pourra pas faire, et en particulier, on ne pourra pas le faire parce que un des problèmes de la gestion des flux migratoires, c'est le rapport en ce que nous avons, nous, spécifiquement, avec certains pays d'origine, qui ne jouent pas le jeu de l'échange, alors que, par ailleurs, nous délivrons beaucoup de visas. L'ancien ambassadeur de France en Algérie a écrit un livre là-dessus, Xavier de Driancourt. Enfin, tout ça est pas simple. En ce qui concerne la prise en charge médicale, Je pense que l'AME, on peut en discuter de son périmètre, mais je crois que c'est pas ça l'aide médicale des pas. Je crois que c'est pas ça la spécificité française. La spécificité française, c'est ce qu'on appelle le titre de séjour étranger malade, hein, qui permet à toute personne qui peut arguer du fait que le soin n'est pas accessible, c'est pas qu'il n'existe pas, mais qui n'est pas accessible, peut obtenir ici un titre de séjour. Il y a actuellement 30-35 000 personnes qui bénéficient de ce titre de séjour. Enfin, c'est vrai que ça fait partie des choses qui nous différencie par rapport à l'ensemble des pays européens et qui sont sans doute discutables. Le voile à l'université, on ne fera jamais rentrer les CRS à l'université pour arracher le voile des personnes, et je crois que c'est pas ça le problème. Le problème, il est plutôt le fait que on a eu un écroulement, je dirais, des expériences laïques, et que on a une pression idéologique d'un islamisme radical qui vient de l'autre côté de la Méditerranée et qu'on a du mal à combattre, et on le voit encore dans les chiffres que vient de délivrer l'INSEE, c'est-à-dire l'augmentation du port du voile, alors
oui,
que partout...
Il a explosé, dit l'INSEE. Oui.
Alors que partout le voile s'est développé, eh bien la démocratie a reculé. Et en ce sens-là, il faut être beaucoup plus ferme intellectuellement, politiquement, pour le coup, pour dire, eh bien, ce n'est pas une bonne chose, et ce que vous portez est idéologiquement contraire à l'idée d'un bien commun. Et enfin, dernière chose sur le Danemark, ce que fait le Danemark, c'est de poser le problème effectivement de est-ce qu'un système social peut absorber tout le monde, et on peut en discuter, mais surtout ils ont mis en place des mécanismes anti-ghetto, hein, c'est-à-dire pas plus de 30 personnes par plus de 30% pardon, merci, hein, de personnes dans un quartier qui ne sont pas européennes
mais ils sont vraiment fermés les frontières en plus.
Alors fermés nous pas totalement, puisque il reste toujours la demande d'asile, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ont mis en place des mécanismes d'accès à la nationalité qui sont beaucoup plus rigoureux et qui peuvent empêcher, contraignants, et qui peuvent empêcher cela, alors que historiquement nous sommes un pays qui accorde plus facilement la nationalité que par exemple l'Allemagne, même si les choses se sont ouvertes, l'Italie, l'Espagne, etc. Et donc le dernière chose, je crois que il faut avoir une politique beaucoup plus exigeante vis-à-vis de nos pays à nous de départ, et je le redis, hein, en Allemagne, les origines des personnes nées à l'étranger, c'est d'abord la Pologne, il y a la Turquie, mais après c'est la Fédération de Russie. Nous, c'est l'Algérie, le Maroc, enfin bon, et c'est avec ces pays-là qu'on a une difficulté qui est liée à notre histoire, on ne peut pas le nier.
Alors, l'émission va bientôt se terminer. Alors, voudrais faire très rapidement un peu de prospective. Vous parlez, Pierre Brochand, de lois qui s'accumulent, mais qui sont cosmétiques. Le processus continue. Alors, où va la France ? Que sera, selon vous, la France dans 20, 35 ans ou 100 ans, si, précisément, tout continue à aller dans le même sens ? Pierre Bourgeon.
Je vais le dire 10 secondes.
10 secondes.
Mon programme, si j'ose employer ce mot très imposant, est en fait un peu plus vaste. Diviser l'immigration légale par 10, diviser l'accession à la nationalité par 10, diviser par un multiple de 10 les visas pour les ressortissants des pays à risque, annuler tout ce qui fait l'attractivité sociale de la France, abolition de toutes les récompenses accordées à la triche, et la régularisation en est une, et l'AME en est une autre. Donc si l'on veut virer à 180 degrés, il faut annuler toutes ces récompenses, réduire la taille des diasporas par le non-renouvellement systématique des titres de séjour, et, last but not least, une politique nataliste très ciblée.
Et sinon quoi ?
Alors, sinon, si nous ne faisons rien ou si nous faisons peu de choses, nous allons, à mon avis, soit vers une implosion progressive de la confiance sociale en France, c'est-à-dire une société où la qualité de la vie va s'effondrer et où il fera de moins en moins bon vivre. Soit, par explosions successives, des affrontements qui feront de la France un pays où on ne pourra plus vivre du tout, soit les deux. Et quand je dis tout ça, je pense à mes enfants, à mes futurs petits-enfants et à l'avenir qu'ils leur réservent. En particulier quand le point de bascule, quand les populations d'origine immigrée et de religion musulmane franchiront la barre des 50%.
Alors, votre pronostic, Didier Lesky, rapidement, excusez-moi.
Mon pronostic, je crois d'abord que la question qui est posée, c'est la manière dont on peut continuer à défendre un modèle social et politique. Parce que je rappelle que pendant la Révolution française, l'étranger, c'est celui qui n'adhère pas au pacte civique. Hein, et donc, tout l'enjeu, c'est celui-là. Et la question ne se pose pas pour l'ensemble des immigrations, mais elle se pose pour celles qui sont idéologiquement extrêmement prises par quelque chose qui est antagonique à ce que nous souhaitons. Et donc, ce n'est pas tant la question des flux que notre capacité idéologique à prendre en charge l'ensemble de ceux qui arrivent et à faire en sorte qu'ils participent d'une vie meilleure, puisque c'est ce que nous souhaitons pour tous.
Merci beaucoup. Merci infiniment à tous deux. Un dernier mot.
Le mot qui n'a jamais été prononcé, c'est le mot culturel. Et l'expression distance culturelle, la nation n'est pas seulement civique.
Voilà. Et la distance culturelle, vous préférez ce terme à celui de diversité.
C'est pour ça que j'avais souligné que certains pays, il y avait un écart culturel.
Voilà, absolument.
Et politique.
Donc
c'est pour ça qu'il faut prendre les immigrations au pluriel et pas au singulier.
Je renvoie à Didier Lesky à votre petit livre, Le Grand Dérangement, l'immigration en face, qui est publié chez Gallimard dans la collection Tract. Pierre Brochand, la Fondation Respublica a publié Immigration et intégration, table ronde autour de Pierre Brochand. C'était donc Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Virginie Lorda. L'émission de la semaine prochaine aura pour titre Sur l'islam. Mes invités seront Rémi Brague et Shems Eddin Hafiz, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.